Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. C'est Jean-Noël avec vous pendant une heure pour cette émission sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est tant mieux. Vous vous informez de l'actualité scientifique et c'est très bien. Bienvenue à vous sur l'antenne pendant une petite heure sur Graphite pour essayer de s'informer de l'actualité scientifique. Aujourd'hui, 17 avril, journée mondiale de l'hémophilie. En mémoire de la naissance, le 17 avril 1926, de Frank Schnabel, fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Donc, journée mondiale de l'hémophilie aujourd'hui. Au niveau de l'éphéméride, les 17 avril, il y en a quand même quelques-uns. Il y a déjà l'astronome William Herschel qui découvre plusieurs galaxies en 1784. En 1970, c'est le retour sur Terre de la fameuse mission Apollo 13, 17 avril. Plus proche de nous, en 2014, l'annonce de la découverte de Kepler-186f. C'est une exoplanète de la taille terrestre située dans une zone habitable de son étoile. On en avait parlé dans cette émission, on s'est dit « mais tiens, il y a peut-être la possibilité d'avoir de la vie là-bas ». En tout cas, on pense que l'on pourrait peut-être y habiter. C'était donc l'annonce faite le 17 avril 2014, il y a 2 ans, l'annonce de la première détection d'hydrure d'hélium qui pourrait être le premier composé à s'être formé dans l'univers en milieu interstellaire dans la nébuleuse planétaire NGC 7027. Donc on détecte encore des choses totalement inédites assez récemment, c'était en 2019. Naissance, le 17 avril 1794 de Carl Friedrich Marcius, botaniste, ethnographe, explorateur allemand. Il est membre de l'expédition scientifique autrichienne au Brésil. Ils vont explorer le bassin de l'Amazone pendant près de 3 ans. Et à son retour en Europe en 1821, il devient le conservateur du jardin botanique le jardin botanique de Munich. Et son ouvrage le plus célèbre, c'est sans doute Historia Palmarum, en 3 grands volumes, dans lequel il décrit les palmiers qu'il a découverts au Brésil. Carl Friedrich Marcius, qui est donc né le 17 avril 1794. Décès en 1843 de Samuel Morey, inventeur américain. Il est exploitant des scieries d'Orford dans l'état du Vermont. C'est un pionnier du machinisme en Nouvelle-Angleterre. Il va développer le premier moteur à combustion interne fonctionnant avec un mélange d'éthanol et de térébenthine en 1826. Il est mort le 17 avril 1843. Samuel Morey, voilà, des noms que l'on ne connaît pas, qui ne sont vraiment pas restés, je dirais, dans une certaine postérité, mais en tout cas qui ont inventé, découvert et ensuite diffuser leurs connaissances par la suite. Et donc, toujours intéressant avec cet éphéméride de pouvoir évoquer un petit peu tous ces grands scientifiques dont on a un petit peu oublié le nom à partir du moment où ils n'ont plus une rue et une station de métro à leur nom, ce qui est un petit peu dommage. Partons sur Mars encore et toujours. Oui, parce que finalement, ça n'arrête pas. Il faut dire que l'arrivée sur Mars du rover Perseverance, il y a quelques semaines, hein, c'est pas si vieux que ça, hein, c'était quand même cette année, ça a donné quand même le coup d'envoi de l'ambitieuse mission de retour d'échantillons martiens. C'est ce que préparent la NASA et l'Agence spatiale européenne. Cette mission va se dérouler en plusieurs étapes, va s'étaler sur une dizaine d'années. Elle comprendra plusieurs éléments qui vont être réalisés par la NASA et l'Agence spatiale européenne. Alors, l'Europe réalisera le satellite de capture et de retour vers la Terre, le bras de récupération et de transfert des échantillons dans le conteneur. Quant à la NASA, eh bien, elle va réaliser le véhicule d'ascension martien et son système d'atterrissage, le conteneur des échantillons, le système de capture du conteneur, la capsule de rentrée terrestre. Donc, chacun se répartit un petit peu les tâches. Et donc, dans le cadre de cette mission ambitieuse, Perseverance sera donc chargée de collecter les échantillons qui vont être récupérés plus tard et rapportés sur Terre à l'environ à peu près de l'année 2030. Donc, dans une dizaine d'années, on aura sur Terre des échantillons de Mars. C'est quand même assez fascinant. Et pour préparer cette mission, eh bien, la NASA vient d'octroyer à une entreprise le contrat de développement des moteurs du véhicule d'ascension martien qui va quitter Mars avec ses échantillons. C'est une fusée à deux étages dont la conception s'appuie sur des technologies militaires qui va utiliser deux moteurs à combustible pour pouvoir décoller de cette plateforme pour rejoindre l'orbite martienne. C'est un contrat d'un montant quand même assez important de 84 millions de dollars qui va couvrir la réalisation et les essais des deux moteurs de ce véhicule particulier. C'est très contraint concernant sa taille et sa masse pour des raisons d'encombrement, parce que faut pas que ça soit trop grand, faut pas que ça soit trop lourd, faut pas que ça dépasse 400 kilos. Donc il faut essayer de trouver des choses performantes, mais avec des vraies contraintes de taille et de poids. C'est ça qui est la vraie prouesse technologique qu'il va falloir réussir à obtenir. Et ce n'est pas un nouveau moteur que va développer cette entreprise. C'est justement un modèle qui a déjà été testé. C'est un modèle de type de moteur militaire qui compte près d'une centaine de configurations possibles déjà qui ont été mises en place et testées. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'on sait très bien qu'on va s'appuyer sur des technologies militaires et les moteurs utilisés seront un petit peu adaptés à des moteurs de missiles, nous dit-on. Cependant, il va falloir quand même essayer de développer ce dispositif pour qu'il soit performant et qu'il soit adapté à l'environnement de Mars, très différent de la Terre, bien évidemment. Il y a donc des contraintes de développement qui devront tenir compte de la faible gravité qui est présente sur Mars, la densité aussi de l'atmosphère martienne qui est très peu dense. Et puis, à cela s'ajoute le fait qu'on n'a jamais fait décoller une fusée depuis la surface d'une autre planète. Donc, on ne sait pas trop précisément comment ça peut se passer. C'est un contrat qui prévoit donc 14 mois de développement, de fabrication, de tests et une phase de qualification. Alors, si on se fie au scénario qui est aujourd'hui un petit peu fixé, eh bien, on se dit... Alors, attention, on s'est fixé, mais ça peut être sujet, bien sûr, à modification s'il y a des imprévus qui surviennent lors de la collecte des échantillons par le rover Perseverance. Eh bien, si on se fie au scénario, la NASA prévoit de lancer en 2026 ce dispositif et on pourra donc récupérer les échantillons de Mars collectés par le rover Perseverance qui les aura logés dans un conteneur. Le conteneur sera ensuite placé dans ce fameux véhicule d'ascension martien qui se lancera en orbite et qui sera récupéré ensuite par un dispositif développé par l'Agence spatiale européenne pour pouvoir, donc, comme je vous l'ai dit, prévoir un retour des échantillons sur Terre qui pourrait avoir lieu dès l'année 2030. Donc dès aujourd'hui, on a déjà le plan de vol, on sait déjà ce qu'il faut faire. Et on a encore beaucoup d'inconnus, donc on a 10 ans pour pouvoir déterminer ces inconnus, essayer de trouver des réponses pour pouvoir technologiquement essayer de mettre en place un dispositif totalement performant. C'est fascinant ce qui se passe au niveau de Mars, et comme je vous le dis assez régulièrement dans cette émission, c'est vraiment l'actualité, le fil rouge qu'on va avoir pendant toute cette décennie 2020, et ensuite avoir des réalisations concrètes 2030 avec Mars qui vient sur Terre. C'est assez fascinant, c'est assez intéressant et bien sûr on suivra l'actualité de Mars régulièrement dans cette émission, vous le savez. Allez, un petit peu de musique et on continue à feuilleter l'actualité scientifique. À tout de suite.
I've opened my eyes 5 minutes before. Furthermore, I'm walking in the dark with no one to follow and no place to go. Oh, oh yeah, we gotta live.
Keep the Use avec Forevermore sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique, et vous avez bien raison. On va parler de la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les usages concrets qui nous attendent demain. Alors, réalité virtuelle, réalité augmentée, ce sont deux technologies différentes qui sont utilisées pour des objectifs différents. La réalité virtuelle, elle va permettre de s'isoler du monde qui nous entoure, tandis que la réalité augmentée, elle va plutôt apporter des éléments nouveaux et du relief au monde qui nous entoure. C'est ça la principale différence. La réalité virtuelle, ça permet d'immerger un individu dans un monde artificiel en activant ses principaux sens, la vue, l'ouïe, parfois l'odorat, parfois le toucher, grâce par exemple à un casque de réalité virtuelle. Eh bien, l'utilisateur se coupe momentanément du monde qui l'entoure et va donc évoluer dans un univers qui va être créé grâce à des logiciels. Les casques de réalité virtuelle sont très utilisés, bien sûr, dans le secteur du jeu vidéo, mais pas seulement, parce qu'on trouve une utilisation dans de nombreux secteurs, l'immobilier pour réaliser des visites virtuelles, l'armée pour simuler des sauts en parachute, la médecine pour aider les patients à réduire leur niveau de stress, la culture pour visiter une cité détruite, par exemple. Donc il y a de très nombreux exemples qui illustrent ce principe de réalité virtuelle. De l'autre côté, la réalité augmentée, elle va permettre à un utilisateur d'enrichir et de compléter en quelque sorte ce qu'il voit avec des éléments virtuels afin de se projeter ou d'imaginer plus facilement une situation. Elle est utilisable sur téléphone portable ou tablette, par exemple, pour intégrer des meubles ou des objets de décoration à son intérieur en réalité augmentée, mais aussi directement sur des lunettes qui vont permettre une utilisation un peu plus professionnelle de cette réalité augmentée. C'est une utilisation industrielle qui est possible parce qu'on va pouvoir surimprimer sur les verres des informations utiles pour manipuler un espèce d'outil de travail ou essayer de réparer une machine à distance. Donc la réalité augmentée, elle est également utilisée en immobilier pour donner un peu du volume à des plans, dans l'automobile, dans les musées également. Donc on n'en est pas trop à cet exemple que l'on peut voir dans certains films de science-fiction avec des lentilles qui nous permettent d'avoir une information instantanée. On a tous vu ça dans certains films. Mais on s'y rapproche de plus en plus, en fait. C'est ça qui est intéressant. Les lunettes de réalité augmentée devraient d'abord se développer de plus en plus, malgré les échecs des premiers modèles dans les années 2010, notamment le modèle de Google Glasses, qui finalement n'a pas pris l'essor qui était espéré au départ. Mais la technologie, elle évolue très vite. Et donc, il n'est pas impossible que, dans cette décennie, la fiction devienne réalité. Alors attention, il y a aussi d'autres problématiques qui sont en parallèle et qu'il va falloir prendre en considération: la sécurité, la législation et puis aussi l'acceptation. Est-ce qu'on est prêt à franchir ce pas également ? C'est une vraie question. La technologie, elle, elle avance, mais parfois, il va falloir essayer de trouver un petit peu des méthodes, des astuces peut-être pour qu'on puisse s'approprier ces nouvelles technologies à partir du moment où elles peuvent nous apporter un plus, un gain, et qui ne soit pas non plus un coût financier important. Donc cet équilibre est en train de se créer, et en tout cas, voilà, il y a effectivement deux technologies pour lesquelles que l'on connaît, c'est rien de nouveau maintenant, c'est-à-dire que technologiquement, on maîtrise et on atteint des performances que l'on va essayer de dépasser, bien sûr, mais on va être dans une étape, voilà, de sécurité, d'acceptabilité et aussi de législation à mettre en place pour tout ce qui va être réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc, dans tout ce panel de nouvelles technologies, il y a encore des choses qui nous sont annoncées, notamment par Google. Par exemple, il y aurait cette idée de pouvoir nous donner un petit peu l'ouïe d'un super-héros. C'est ce que promet ce projet top secret qui est en cours chez Google et qui a été dévoilé il y a quelques jours. Les sens surdéveloppés d'un super-héros seraient donc peut-être bientôt accessibles à tout le monde. Ou tout au moins, Louis, donc, nous dit-on, il y a un site qui s'appelle Business Insider qui a pu obtenir des informations sur un projet secret qui est nommé Wolverine. Bien sûr, c'est le personnage des X-Men, on est bien d'accord, avec des anciens employés qui ont diffusé quelques informations. Il y a une équipe de chercheurs qui travaillera actuellement sur un appareil rempli de capteurs et qui se porterait sur les oreilles. Et ce projet correspond certainement les espèces d'écouteurs intelligents dont l'une des fonctions serait de permettre d'isoler une voix dans un brouhaha assez ambiant. Par exemple, pour essayer de suivre une conversation en particulier dans une salle qui serait remplie de monde. Et selon donc l'une des sources, eh bien le projet n'en est encore qu'à ses débuts et une grande part du travail de recherche s'est concentrée jusqu'à présent sur les propriétés physiques et notamment le placement des microphones. Alors, l'appareil est développé donc par une filiale de Google, qui est le laboratoire de recherche de Google pour des projets, on va dire, un petit peu fous, qui sont baptisés Moonshots, parce qu'ils visent la Lune, Moon, la Lune, donc on s'est dit, on va le nommer comme ça, ça c'est aussi du marketing, ça fonctionne très bien, et on pourrait voilà, se dire que ça pourrait être un projet qui pourrait essayer d'avoir un petit peu le pendant de ce qui existait au niveau des Google Glasses qu'on a évoqué tout à l'heure, ces lunettes, mais également la voiture autonome développée par Google. Un projet qui suggère justement que Google pourrait s'intéresser au marché des objets connectés à portée. Alors, attention, on est loin d'un produit fini. Hein. Ce projet Wolverine, comme on l'a dit, c'est qu'au début. Et puis, là encore, il y a du secret, donc on ne sait pas tout. Donc, il y a encore pas mal de suspicions. Il y a peut-être aussi l'idée de donner une information, enfin des bribes d'informations, pour essayer de susciter un petit peu l'accueil que peut avoir ce genre d'information et d'essayer de comprendre justement et d'analyser l'accueil qu'il peut y avoir. Bref, beaucoup de flou, beaucoup de suspicions. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, on sait très bien qu'au niveau technologique, ça avance et qu'on ne nous attend pas. Et que du coup, il y a pas mal de laboratoires de recherche développés par des grandes entreprises, les fameux GAFA, on le sait, sur ce genre de technologie. Bref, pour l'instant, on en est encore très loin, mais ça permettrait voilà, d'avoir une solution qui permet d'avoir une meilleure ouïe. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue médical, pour aider les personnes qui ont des difficultés à entendre ou de pouvoir capter une conversation dans un bruit ambiant, effectivement, on comprend très bien quelles peuvent être les avancées thérapeutiques vraiment intéressantes. Mais pour l'instant, on en est encore trop loin. C'est un projet qui est encore un prototype. Et bien sûr, il faut ensuite que ça soit performant et que ça soit rentable. Et là encore, c'est des aspects économiques, effectivement, qui vont toujours, toujours être sous-jacents dans ce genre d'évolution de technologie, bien sûr. Allez, on continue à écouter un peu de musique sur Antenne de Graphite et on va continuer à, bien sûr, feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission. À tout de suite. Last Train avec Disappointed sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, parce que il n'y a pas que le coronavirus qui nous permet de parler de science. Heureusement, il y a déjà, on en parle assez souvent, et dans cette émission, on a aussi pris un peu le parti de s'intéresser à ce qui existe au niveau de l'actualité scientifique, en dehors du coronavirus, bien sûr. Et là, il y a deux informations assez intéressantes et assez inédites. La première concerne l'embryon humain fonctionnel qui a été reproduit en laboratoire. C'est une première mondiale. Alors, on le sait, la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde marque le début de ce qu'on appelle l'embryogenèse humaine, c'est-à-dire l'ensemble du processus de développement qui va transformer le zygote en un fœtus. Et les 15 premiers jours de développement de l'embryon, avant qu'il ne s'implante dans l'utérus, eh bien, ces 15 jours restent difficiles à étudier pour les scientifiques, parce que les embryons humains précoces disponibles pour la recherche sont assez rares. Il y a deux équipes, l'une qui est liée à l'école de médecine du Sud-Ouest de l'Université du Texas, menée par Yun Vu, qui est un spécialiste de l'embryogenèse. Autre équipe, cette fois en Australie, de l'Université Monash, eh bien, ces deux équipes sont parvenues à créer des embryons humains au stade blastocyste, donc vraiment au tout début de son développement, à partir de cellules cultivées en laboratoire. C'est une technique qui est déjà réalisée pour des embryons de souris, mais qui est totalement inédite avec des cellules humaines. Juste après la fécondation, le zygote se transforme au fil des divisions cellulaires. Il contient d'abord 2 cellules, puis après ça se divise en 2, ça en donne 4, ça divise en 2, ça en donne 8, et ainsi de suite. Et au 4e jour, il atteint le stade de ce qu'on appelle blastocyste. Les cellules qui étaient au départ toutes identiques, eh bien, elles vont se scinder en 2 populations, les cellules à l'extérieur et les cellules à l'intérieur. Et les heures suivantes, elles vont être assez cruciales pour les cellules qui sont à l'intérieur, parce qu'elles vont ensuite pouvoir se développer et pouvoir ensuite essayer de faire en sorte que ce blastocyte puisse s'implanter dans l'utérus pour pouvoir poursuivre son développement. Donc, au niveau de l'embryogenèse, c'est vraiment une étape fondamentale pour qu'ensuite le fœtus puisse se développer. Et donc, ce laps de temps-là, ces quelques jours au départ, sont assez importants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux équipes de chercheurs sont parvenues à recréer des blastocystes humains à partir de cellules en culture. Donc, ces deux équipes ont travaillé sur des technologies et des cellules différentes au départ, mais en tout cas, elles arrivent quand même à un protocole assez similaire pour ces deux groupes. Et l'expérience, elle montre donc, du coup, qu'ils ont réussi à reproduire un espèce d'embryon humain fonctionnel en laboratoire. Les scientifiques, ils ont voulu analyser un petit peu le développement de ces fameux blastocystes en essayant de mimer, entre guillemets, un petit peu l'implantation dans l'utérus, mais cette fois in vitro, ce qui est aussi technologiquement assez extraordinaire. Et après 4 ou 5 jours de culture, eh bien, on se rend compte que ces blastocytes adhèrent un peu à la boîte de culture, hein, cette espèce de boîte de pétri en plastique, et on continue à percevoir une différenciation des cellules. C'est-à-dire que l'intérêt de tout ça, c'est qu'au final, ces cellules vont se différencier pour former un corps humain complexe avec tous les organes, alors qu'au départ, on part d'une seule cellule, hein. Donc, l'idée, justement, c'est qu'on puisse essayer in vitro de mieux comprendre, de mieux analyser tous ces processus des premiers stades de développement de l'embryon. Et l'idée, évidemment, c'est de pouvoir identifier et comprendre les processus d'apparition de maladies qui sont associées lors de ce développement embryonnaire. Et justement, c'est assez difficile de pouvoir essayer d'analyser pendant ces premières étapes-là. Et donc, du coup, l'intérêt de cette première scientifique va permettre, alors ça reste encore un peu défaillant, je veux dire, c'est pas encore totalement performant, mais ça va permettre justement d'avoir des informations cruciales sur les premiers jours du développement de l'embryon, pour justement obtenir des informations assez importantes sur cette embryogenèse dont on connaît un peu le fonctionnement, mais pas totalement. Et donc, du coup, l'idée de pouvoir reproduire en laboratoire ce phénomène physiologique, eh bien, du coup, c'est assez, assez inédit. Alors, attention, il y a tout un aspect éthique derrière qu'il va falloir maîtriser parce que, pour l'instant, il y a l'interdiction de toute culture d'embryon humain au-delà de 14 jours de développement. Donc, là, comme on veut avoir des informations sur les premiers jours, ça n'a pas d'impact, quelque part, sur cette interdiction qui apparaît à partir de 14 jours. Mais bon, on sait très bien aussi qu'il y a ce que l'on sait et ce que l'on dit, il y a aussi ce qu'on ne sait pas et ce que l'on fait. Donc, il va falloir être assez, vigilant sur cette situation, bien sûr. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose d'assez inédit, une prouesse qui est totalement inédite jusqu'alors et qui va permettre d'avoir de fournir des informations vraiment intéressantes. Autre chose, on n'est pas du tout dans l'embryologie, mais on est dans ce qui nous arrive à nous régulièrement. On perd nos clés, on perd le téléphone portable. Eh bien, on n'est pas les seuls à perdre des choses. Certains les perdent pendant longtemps, même pendant plus de 50 ans. Et c'est assez intéressant ce qu'il s'est passé au Groenland. Il y a une carotte de glace qui a été extraite sur une profondeur de plus de 1400 mètres au niveau du nord-ouest du Groenland par des scientifiques de l'armée américaine et qui a été déplacée de congélateur en congélateur. Ça date de 1966. Et on l'a retrouvée en 2017, cette carotte de glace. C'est une heureuse découverte parce que les chercheurs de l'université du Vermont qui l'ont examinée, donc on est à 50 ans après, ne s'attendaient pas à trouver sur ces quelques mètres de terre et de glace qui terminaient justement cette carotte autre chose que du sable et de la roche. Ils ont observé des brindilles et des feuilles parfaitement préservés. Ce sont des fossiles. On dirait qu'ils sont morts hier. C'est ce qu'explique Andrew Christ, le chercheur qui a justement communiqué sur ce sujet-là. C'est grâce à des analyses que les scientifiques accèdent à des informations sur la fenêtre de temps qui va nous donner donc une idée un petit peu de dater ce que l'on a découvert grâce à des isotopes. Et on peut justement essayer de déterminer la durée pendant laquelle les roches ont pu être exposées au soleil ou être enfouies sous la glace. Et il y a certaines formes rares de béryllium qui ne se forment dans le quartz que lorsque le sol est frappé par les rayons du soleil. Et donc, du coup, ça nous permet de dater tout ça, d'estimer en tout cas un petit peu le temps écoulé justement pour ces éléments que l'on va trouver. En général, c'est plutôt de la roche, du sable, des sédiments qu'on arrive à découvrir. Or, ici, on arrive à découvrir donc des plantes sous la glace du Groenland. C'est une étude qui a été prélevée à quelques 120 km à l'intérieur des terres. Donc, ça montre quelque chose au niveau du Groenland assez intéressant au niveau de la zone géographique utilisée. Et on avait planqué ça pendant 50 ans, on s'en est pas soucié, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on a pu avoir des informations sur sur ces plantes, essayer d'avoir une datation. Et donc, l'idée d'avoir l'histoire du Groenland, de se dire qu'à ce moment-là, il y avait donc des plantes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de glace, ce qui veut dire que donc à ce moment-là, on avait aussi une phase peut-être de réchauffement climatique qui fait que si on avait des plantes qui étaient à l'air libre, entre guillemets, le Groenland était vert à ce moment-là, en tout cas dans la zone où on se trouve. Et je vous rappelle qu'on est quand même à 120 km à l'intérieur des terres, donc on n'est pas au bord, à l'extrémité du Groenland, on est quand même un petit peu plus à l'intérieur et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est quelque chose qui a stupéfait un petit peu les scientifiques, qui a fait beaucoup parler dans le milieu scientifique il y a quelques semaines, c'est assez récent. C'est une annonce qui date de ce début, du mois de février, je crois, apparemment, d'après ce que l'on a comme informations qui ont été communiquées. Mais en tout cas, voilà, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'éléments sur l'histoire du Groenland et donc de se dire que ces informations, on aurait pu les avoir il y a 50 ans, mais comme on les a planquées de congélateur en congélateur, que voulez-vous ? Il y a des moments où, franchement, on se demande qui arrive à suivre. Il n'y a pas de logistique, en fait, il n'y a pas de suivi dans tout ça. Ils sont parfois un petit peu bordéliques, hein, les scientifiques. Enfin, bon, certains, évidemment, pas tous, bien sûr. Allez, on continue à écouter un peu de musique sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite. Whether outdoors or indoors, the crowd will endorse my show and end yours. That's natural laws. I get crazy applause. They boo you like Bantan. I chant down Babylon. It's the countdown. Countdown. We're living in the last couple of days. That's why I never kick whack rhymes. Cause ain't no time to waste. No time to fake. No time to chase the papes. Time to get it straight in 1990. Hate. That's the number end of my state. The only way you fucking with my style is if it's rape. But I got the mace and the pepper spray in my purse. After the battle, one of us leaving the hearse. I don't care if it's me, but it's probably gonna be you though. While I'm chilling, like blue notes played on Pluto. I won't get mad if you say you took our promo. I'll just relax, sit back, and watch your nose grow. Suck a step up, you wanna battle. Suck a step up, you wanna battle. Yeah, my style's off the record, but don't turn off the record. Cause then it's off the record, how I off you in a second. My style's off the record, but don't turn off the record, cause then it's off the record. Suckers, if I cross you out or diss you in the rhyme, take it as a compliment. I think you're worth the ink and the time. Who me? Promo with the messed up head. Don't mess with me though, cause I bust rhymes in pairs. And fuck with dead MCs like necrophiliacs, but I can't dig them. They acting like maniacs, thinking that the promo could ever get beaten. That's like a Danish guy getting drunk in Sweden. Not very likely, cause when I step on stages, I get props from smoke spots, the internet, homepages. See my show as a sermon on the mouth, giving them seeds God's word on what it's all about. It's about this, sounding crisp on the mic. To me, all your other clicks sound alike. So fuck you, plus your weak producer. Don't face me, you'd rather face Medusa. I'll turn your weak flesh into solid stone. Simply because I rock on the microphone. And it don't stop, it goes on and on. Like having sex with a Rika Badu till the early morn. Check it out, it don't stop. I keep on till the neighbors call the cops. Cause my style's off the record, but don't turn off the record. Cause then it's off the record, how I off you in a second. My style's off the record, but don't turn off the record. Cause then it's off the record. Technique. You wanna battle, suck a step up, go, 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 go. You wanna battle, suck a step up, go, 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 go. MCs talk a lot of shit, I make them eat every word of it. I'm from the Luke Drew crew, I bet you heard of it. And still you wanna face me, not even a man in American. Who you, a Swedish kid trying to be American? Couldn't take me out if I was the trash. You won the battle, then you better bring some cash. Cause I'm taking all your stash, even when I'm drinking bash. And the sound clash on your ass like a rash. With the bash in the lyrics, spit like ammo. From the lips of P-R-O-M-O, the mind state. Scientists ain't figured yet. Your style compared to mine is Nicorette to cigarette. You illiterate, I'm educated. The University of Hip Hop, you never graduated. I heard some decent MCs rhyme from the top of their heads. But I rhyme from the bottom of my heart, nuff said. Nuff said. Turn off the record, cause then it's off the record, how I off you in a second. My style's off the record, but don't turn off the record, cause then it's off the record, how I off you in a second. My style's off the record, but don't turn off. C'était Promo avec Off The Record sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On parle, je vous disais tout à l'heure, beaucoup du coronavirus, mais on ne parle pas des autres épidémies. On a parlé dans cette émission il y a quelques semaines, il y a un mois, je crois, du virus Ebola. On en sait un petit peu plus sur la maladie d'Ebola, dont on sait que depuis la mi-février, cette maladie est de retour en Guinée, environ 5 ans après la fin de l'épidémie qui avait avait fait dans les années 2014-2016 environ 2500 morts dans le pays. L'épidémie de 2021 prend ses racines dans une ville à Gweke, probablement entre le 18 janvier et le 13 février dernier. L'événement déclencheur semble être l'enterrement sans mesure sanitaire d'une infirmière de 51 ans, c'était le 1er février 2021. Il y a plusieurs membres de sa famille ainsi qu'un médecin qu'elle avait consulté qui ont développé des symptômes de la maladie d'Ebola. Donc ces symptômes, ça peut être de la diarrhée, des vomissements, des saignements. Et parmi ces personnes, il y a 4 décédés et 2 placés en quarantaine. C'est un article qui date il y a 15 jours, donc ça a peut-être évolué depuis. En tout cas, on considère que cette infirmière de 51 ans qu'on a enterrée serait peut-être le patient zéro de cette flambée épidémique. Elle était malade depuis le 18 janvier et elle a d'abord été diagnostiquée pour la fièvre typhoïde, puis pour le paludisme, avant donc son décès le 28 janvier. Et selon le dernier rapport de l'OMS sur la situation, 192 cas contacts ont été recensés dans cette région de Gweke et aussi dans un centre de soins de Conakry. Comme pour chaque épidémie, eh bien les scientifiques identifient la souche du virus Ebola qui en est responsable. Sauf que cette fois-ci, le résultat est totalement inattendu. Ces analyses qui ne sont pas encore parues dans des journaux à comité de lecture, donc il n'y a pas encore, on va dire, une validité scientifique, mais en tout cas, elles circulent quand même, montrent que... il y a eu des conclusions qui ont été rendues publiques le 12 mars dernier. Et donc, selon ces analyses, la souche actuelle de Ebola appartient à une lignée spécifique qui est la lignée de la souche de l'épidémie des années 2014-2016. Cela signifie que l'épidémie actuelle ne serait pas due à un événement qui serait lié à la contamination d'un humain par un animal, mais qui serait un petit peu le résultat d'une contamination interhumaine. Ça veut dire quoi? L'Institut Pasteur de Dakar au Sénégal a reçu plusieurs échantillons de cette souche pour pouvoir les séquencer et il apparaît donc qu'elle partage avec celle donc de 2014 une dizaine de mutations et les scientifiques s'attendaient à avoir plus de divergences entre les deux virus. Surtout qu'il a circulé activement dans une population humaine. Et donc, le taux d'évolution du virus fait qu'on aurait dû avoir quelque chose d'un petit peu plus différent. Et en fait, non, on se rend compte qu'on en est loin du compte. Et l'hypothèse la plus probable pour expliquer ces observations, c'est que le virus de 2014 serait resté latent dans le corps d'un survivant de l'épidémie pendant 5 à 7 ans. Et cette personne, elle aurait donc conservé le virus en elle et elle aurait ensuite contaminé cette fameuse infirmière qui est décédée fin janvier. Et on est dans un cas de persistance de ce virus Ebola, une persistance qui avait déjà été signalée dans une publication de 2016 qui expliquait, qui décrivait le cas d'un survivant de l'épidémie, donc de cette période 2014-2016, chez lequel le virus est resté caché pendant 500 jours, notamment dans ses testicules, nous dit-on, et il a ensuite transmis par voie sexuelle ce virus, ce qui a provoqué une résurgence de la maladie. En fait, on apprend que les testicules sont des organes particuliers qui ont un espèce de privilège qui fait que un agent pathogène peut s'y cacher sans déclencher de réaction inflammatoire. Donc du coup, le virus serait resté là, n'aurait pas été détecté par le système immunitaire et du coup serait resté un petit peu latent et ensuite a pu être transmis, mais 4-5 ans après. C'est ça qui est quand même assez affolant dans cette histoire. Il y a aussi des organes comme le cerveau, les yeux et l'utérus pendant la grossesse qui sont aussi des organes qu'on appelle immunoprivilégiés. C'est-à-dire que du coup, ils ne vont pas susciter une réaction inflammatoire ou immunitaire si on a un agent pathogène à l'intérieur. Bref, C'est donc à peu près le même scénario qui se serait déroulé début 2021. Et donc là, on est sûrement sur un temps assez long de 5 ans et c'est quand même assez affolant. L'infirmière de 51 ans a été contaminée par voie sexuelle, donc par un survivant de la précédente épidémie qui a gardé donc dans son organisme le virus pendant au moins 5 ans. C'est ce que semblent donner les conclusions de ces premières études qui, je le rappelle, ne sont pas encore dans des revues scientifiques, mais en tout cas qui ont été diffusées par différents forums de référence sur l'évolution des virus et l'épidémiologie et qui fait beaucoup parler donc dans le milieu des épidémiologistes, bien sûr, parce que on se dit que si on a un virus qui reste latent pendant 5 ans dans le corps d'un survivant et qui ensuite peut être transmis, ça donne un nouveau regard sur des maladies virales assez inédites et inquiétantes, bien évidemment, ce qui implique un véritable challenge pour les survivants d'Ebola et pour leurs proches, pour les soignants également, parce que les survivants de la maladie font l'objet aussi quelque part d'une stigmatisation dans leur pays, et l'hypothèse qu'ils puissent transmettre la maladie malgré eux 5 ans plus tard risque d'aggraver leurs conditions. L'OMS a fait parvenir environ 11 000 doses de vaccins contre Ebola fin février pour juguler l'épidémie, mais en tout cas voilà, c'est une information que je trouve assez particulière en fait pour ce virus Ebola, avec ce qui restait latent dans le corps d'un survivant pendant 5 ans. Voilà. Et autre information qui va pas toujours être réjouissante, mais toutes les semaines, presque toutes les semaines dans cette émission, on parle des conséquences du réchauffement climatique. Et là encore une nouvelle illustration concernant les inondations, qui sont la première cause de déplacement des populations. Les inondations à elles seules comptent pour moitié des personnes déplacées. On considère qu'il y a 288 millions de personnes déplacées depuis 2008 suite à un événement climatique. Et donc, les inondations à elles seules sont responsables de la moitié de ces déplacements. C'est-à-dire que c'est plus que les déplacements causés par les guerres ou les conflits. C'est un premier paramètre. Hein, le second, c'est que les inondations sont influencées par le changement climatique, et il y a donc une équipe internationale de chercheurs qui a voulu essayer de mieux comprendre les risques à venir en la matière. Et donc, ils ont travaillé sur des modélisations du climat, de l'hydrologie, des inondations, pour essayer de quantifier l'effet du réchauffement climatique sur le risque de déplacement des populations. Et leur conclusion, c'est qu'avec le niveau de population actuel, le risque de déplacement de population dû aux crues des rivières, par exemple, augmenterait d'environ 5% avec chaque degré de réchauffement climatique. C'est-à-dire, un degré de plus, on a au moins 50% de risque de déplacement de population en plus. Un degré, c'est pas grand-chose quand on sait que l'accord de Paris devait dire qu'on ne devait pas dépasser, je crois, de mémoire, 2 degrés, et dont on sait qu'on a beaucoup de craintes sur le respect des accords de Paris. On se dit que ça pourrait essayer d'avoir une situation dramatique, et il y a des simulations qui montrent qu'on pourrait atteindre une augmentation de 350% de déplacement de population dû justement à cette augmentation de la température et l'impact qu'il y a sur les inondations. C'est des travaux qui nécessitent là encore l'action rapide pour atténuer le réchauffement et le changement climatique. Il faut donc aussi des adaptations, la planification urbaine, la mise en œuvre d'infrastructures de protection également. Bref, il y a un risque qui pèse de plus en plus, notamment sur des groupes de personnes qui vont être un petit peu vulnérables d'un point de vue socio-économique. Et ça va en plus, ces déplacements, avoir les exposer à des risques accrus en termes de santé, de sécurité et de bien-être. Donc c'est tout un amalgame une conjonction de situations qui font que ça va être très compliqué, très difficile pour ces populations. En tout cas, là encore, une illustration concrète de ce réchauffement climatique qui montre que l'augmentation d'un degré, c'est 50% en plus de déplacement de population. On imagine à l'échelle internationale ce que cela représente, bien évidemment. On écoute un dernier titre sur l'antenne de Graphite et on termine cette émission avec deux choses un peu plus réjouissantes. On va parler du papier. Et oui, on parle de tout dans cette émission, bien évidemment. Il n'y a pas de raison, à tout de suite.
a funny thing that I struggle to explain. That every time I look at you, there's something that I crave. But I know there's nothing that I change. Yeah, I change. There's many thoughts and feelings, babe, rushing through my brain. So many things I want to say through every tune I play. But I know that I, baby, baby, I won't be your slave. Be your slave. Da 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 da. Your love is like a shower, babe. It's hot and cold, you see. And I give anything, my dear, just to see you smile at me. 'Cause you're so beautiful to me, fall to me. It's hard to contemplate the fact that I'll never be with you. If you could only understand why I do the things I do. But you don't, no. So I, baby, baby, I won't be your slave. Be your slave. Da-da-down, da-da-down, no. Da-da-down, da-da-down, no. Da-da-down, da-da-down, no.
C'était Kitty Daisy and Lewis avec Slave sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite. .net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou grâce au podcast. Deux dernières informations rapides avant de nous quitter. La première, c'est, on le sait, le monde du vivant qui reste une source d'inspiration pour les chercheurs. Et cette fois, on s'est intéressé aux concombres de mer. Et oui, parce que on sait qu'ils sont capables de durcir leur peau très élastique. Et en fait, on a voulu essayer d'utiliser un petit peu cette caractéristique pour en faire une invention. Ce sont des chercheurs des universités de Mayence et de Fribourg en Allemagne qui ont ainsi créé un papier transparent et rigide qui va s'assouplir lorsqu'il est soumis à un courant électrique. Donc c'est un matériau qui est composé de fibres de cellulose qu'on a extrait des parois cellulaires d'arbres et c'est beaucoup plus fin que les microfibres des papiers standards que l'on connaît tous. Et donc ils ont obtenu un papier, un genre de nanopapier entre guillemets, qui ressemble à du verre et qui pourra être utilisé comme matériau de construction grâce à ses propriétés physiques musique proche de celle des alliages en aluminium. Donc, ce que l'on fait, c'est que si on applique un courant électrique, eh bien, le matériau va chauffer et du coup, il y a tout un système physique qui se met en place qui fait que le papier devient plus mou. Et quand c'est un courant électrique très élevé, eh bien, il va vraiment s'assouplir. Et c'est entièrement réversible, c'est-à-dire que si on veut rendre le papier de nouveau rigide, dans ce cas-là, il suffit de couper le courant. Donc c'est un papier transparent qui pourrait être utilisé comme matériau amortissant, dont les caractéristiques pourront être adaptées à la charge qu'il doit subir. C'est un prototype actuellement qui nécessite une source électrique externe, mais les chercheurs souhaiteraient y intégrer son propre système de stockage d'énergie. Et donc ça pourrait permettre à ce matériau de se transformer automatiquement en amortisseur lorsqu'il est surchargé. Donc voilà, un papier qui durcit ou s'assouplit selon les besoins uniquement en utilisant du courant électrique. Ça, c'est une première application. Deuxième information, toujours en lien avec le papier. Et pour terminer cette émission, on va revenir à cette pandémie de Covid-19 qui montre, on connaît tous ça justement, beaucoup d'élèves qui suivent des cours en ligne avec des présentations diaporamas, des cours en visioconférence. Alors, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que les ordinateurs avaient déjà remplacé peu à peu les cahiers dans les amphithéâtres et dans les salles de classe. Et beaucoup d'entre nous ont troqué un petit peu l'agenda papier et le bloc-notes pour une version un peu plus numérique. C'est une habitude récente à l'échelle de l'humanité à laquelle notre cerveau doit encore s'acclimater. Et en effet, il y a des chercheurs japonais de l'université de Tokyo qui ont démontré dans une série d'expériences qui ont été publiées dans la revue Frontiers in Behavioral Neuroscience, ils ont démontré que le papier et le stylo restent le meilleur moyen de prendre des notes et de les garder en mémoire par rapport aux tablettes, par rapport aux smartphones. Ils ont travaillé avec une cinquantaine de volontaires jeunes, 18-29 ans, tous membres de l'Université de Tokyo, qui se sont donc pliés à plusieurs expériences scientifiques pour évaluer leur capacité à se souvenir d'un emploi du temps lorsque celui-ci était écrit sur un calendrier papier, sur smartphone et sur tablette. Et après avoir lu un dialogue entre plusieurs personnages, les participants ont dû noter l'emploi du temps sur le calendrier, sur la tablette ou sur le smartphone. Et alors déjà à ce stade, les scientifiques ont observé une différence significative entre le support papier et les supports numériques, parce que les personnes qui utilisent un carnet, ils ont mis moins de temps à remplir le calendrier par rapport à ceux qui utilisaient un support numérique déjà. C'est déjà intéressant. Puis, les participants, ils ont attendu une heure durant laquelle ils ont effectué une tâche un peu secondaire qui va un petit peu les faire, les distraire, entre guillemets. Et à l'issue de cette heure, ils ont dû se souvenir de l'emploi du temps des personnages en répondant à un questionnaire. Et pour chaque question, ils ont renseigné un petit peu leur niveau de confiance quant à leur réponse. C'est donc une tâche de remémoration qui a été faite pendant que les scientifiques observaient un petit peu leur cerveau s'activer grâce à une IRM qu'on avait mis en place pour essayer de voir un petit peu l'activité du cerveau. Et pour tous les participants, le fait de se remémorer le calendrier, ça activait les mêmes parties du cerveau. Mais l'activité de ces régions, elle est plus intense chez les utilisateurs du carnet, donc une format papier, que ceux qui avaient utilisé une tablette ou un smartphone. Et donc, pour les scientifiques, cela suggère que l'utilisation du carnet et du stylo stimule le cerveau avec les informations à retenir, mais aussi des informations spatio-temporelles qui peuvent faciliter le processus de souvenir, de mémoire. Alors, ce sont des recherches qui méritent bien sûr d'être approfondies, mais en tout cas, et puis essayer de comprendre un petit peu plus les effets à long terme, bien sûr. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de montrer que prendre des notes sur une feuille stimule plus le cerveau que sur un écran. Écoutez, je ne sais pas si vous faites votre expérience de façon personnelle, mais moi, personnellement, je sais que si je veux apprendre des choses, j'aurai beaucoup plus ce réflexe de les écrire avec un stylo sur un papier que de les taper sur un clavier avec un écran. Je l'ai constaté pour moi et on voit que cette expérience japonaise donne à peu près les mêmes résultats. attention, il faut faire une expérience avec un protocole un peu plus éprouvé, bien sûr. Mais en tout cas, ça donne une première piste assez intéressante parce qu'il va falloir prendre ça en considération, bien sûr. C'est peut-être ne pas tomber dans du tout numérique. C'est toujours ça. Il faut passer d'un extrême à l'autre, bien sûr. On se retrouve samedi prochain. Nous serons le 24 avril. Si tout se passe bien techniquement, on fera une émission spéciale en direct avec Enrique pour la 100e de son émission Vibra SOS. Et nous ferons une émission biotine spéciale Portugal pour essayer de parler un petit peu de la recherche portugaise, de tout ce qui est lié à ce pays en termes de technologie également. Il y a plein de choses à évoquer. Donc, émission spéciale samedi prochain sur l'antenne de Graphite. Ça démarre à 10h, je crois, samedi pour cette 100e direct, 100e spéciale de VibraSOS. En tout cas, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.